Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manila qui est avec vous sur VOA Afrique. Bienvenue dans cette édition du jeudi 11 avril 2024. Voici d'abord les principaux titres. Au Mali, la junte suspend jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques pour subversion. Libération de 6 opposants togolais incarcérés à Lomé. Nous irons au Burkina Faso pour découvrir une ferme de préservation des animaux sauvages malgré les défis.
Les autruches, qui est la souche sauvage du Burkina, c'est l'autruche à cou rouge. L'espèce a disparu du Burkina il y a une cinquantaine d'années. Donc nous voulons faire cet élevage.
Au Tchad, plus de 3,4 millions de personnes en situation critique d'insécurité alimentaire, selon une ONG. La Côte d'Ivoire mise sur ses jeux traditionnels pour unir les communautés. Nouveau défi du ministère du Tourisme et des Loisirs.
Ces jeux ne sont pas non seulement mis en compétition, mais plutôt des occasions de tisser des liens, de fertiliser les rapports entre nos régions.
Le président américain et le premier ministre japonais annoncent une coopération plus étroite en matière de défense. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. Au Mali, la junte au pouvoir a annoncé hier mercredi suspendre les activités des partis et des associations à caractère politique. Claire Morégibourg pour les détails.
Les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public, selon un décret pris en Conseil des ministres par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Ce décret a été lu devant des journalistes par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Le colonel Maïga a justifié la suspension des partis en invoquant le dialogue national initié le 31 décembre par le régime militaire. Le lancement de ce dialogue ainsi que le non-respect de l'échéance du 26 mars ont donné lieu à des discussions stériles et des hypothèses qui n'ont pas lieu d'être, a dit le colonel Maïga. La mesure prise mercredi est une nouvelle restriction à toute expression d'opposition ou de dissidence au Mali, où les colonels ont pris le pouvoir par la force en août 2020. Ils demeurent aux commandes alors qu'ils s'étaient engagés sous la pression de la CDAO à céder la place à des civils élus avant le 26 mars 2024.
Au Togo, 6 opposants incarcérés à Lomé depuis vendredi dernier pour trouble à l'ordre public ont été remis en liberté mardi soir, ont indiqué hier mercredi leurs proches. Rosine Munezelo.
9 membres de la dynamique Monseigneur Pozro, DMK, regroupement de partis d'opposition et de la société civile, avaient été arrêtés alors qu'ils sensibilisaient les gens sur l'illégalité de la révision constitutionnelle, selon la DMK. 3 des personnes incarcérées avaient déjà été relâchées et les 6 derniers membres de la DMK ont été libérés mardi soir et sont rentrés chez eux, a confirmé Thomas Koku Nusukwe, porte-parole de la DMK. Ce projet de nouvelle constitution qui ferait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire agite le pays depuis son adoption par les députés fin mars, l'opposition y voyant un moyen pour le président Faure Gnassingbé de se maintenir au pouvoir. En réponse à ses détracteurs, le chef de l'État togolais a demandé à ce qu'une nouvelle lecture du texte soit menée par l'Assemblée nationale, dont la date n'a pas encore été fixée, et a décidé de repousser les élections législatives et régionales du 20 au 29 avril. L'opposition et des groupes de la société civile ont appelé à 3 journées de manifestation, jeudi, vendredi et samedi, pour protester contre ce qu'ils qualifient de coup d'État institutionnel, mais ces manifestations ont été interdites par le gouvernement. Mercredi, l'opposition prévoyait de maintenir ces manifestations sur les 2 journées de vendredi et samedi.
Un opposant éthiopien a été retrouvé mort hier matin, tué par balle, quelques heures après avoir été arrêté par des forces gouvernementales dans le centre de l'Éthiopie, a annoncé le Front de Libération Oromo. La famille de Baté Urgesa a dit qu'il a été découvert mort sur une route des faubourgs de Meki. Plus de 3,4 millions de personnes ont besoin de toute urgence une assistance humanitaire au Tchad, estime l'ONG Action contre la faim. Cette crise résulte d'une série de facteurs, notamment l'arrivée massive de réfugiés fuyant la guerre au Soudan et un sous-financement chronique pour l'aide humanitaire. Nanit Talani.
3,4 millions de personnes se trouvent actuellement en situation critique.
d'insécurité alimentaire au Tchad. Les provinces d'accueil de l'est du Tchad font partie des zones très vulnérables du pays, avec un faible accès aux services de base et l'arrivée des réfugiés exacerbe drastiquement les besoins, indique l'ONG ACF. Action contre la faim alerte aussi sur le nombre de cas de malnutrition aiguë sévère attendus entre octobre 2023 et septembre 2024, qui s'élève à 480 000 enfants, soit une augmentation de 15%. L'organisation estime qu'il est urgent que les bailleurs de fonds garantissent un financement durable de la réponse humanitaire. Le financement du plan de réponse est à hauteur de 4,5% seulement. L'ONG craint une dégradation de la situation humanitaire avec l'arrivée de la saison des pluies et la période de soudure qui vont accroître les besoins et dans le même temps rendre l'accès aux populations vulnérables beaucoup plus complexe sur tout le territoire. Le Tchad abrite environ 1,4 million de déplacés internes ou réfugiés en raison de conflits dans le pays et chez ses voisins. Mi-février, le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, avait décrété l'état d'urgence alimentaire et nutritionnelle dans le pays sans préciser les actions à venir ni les populations concernées.
Après une année de guerre au Soudan, une génération entière pourrait être détruite, prévient l'ONU, avec des millions d'enfants déplacés, affamés, forcés de se battre ou de se marier et menacés de mort. Près de 3 millions d'enfants souffrent de malnutrition et 19 millions sont déscolarisés, mettant en danger l'avenir du Soudan où 42% de la population a moins de 14 ans. Les experts du Conseil des droits humains de l'ONU disent avoir récolté des informations sur des femmes et des jeunes filles vendues sur des marchés aux esclaves dans des zones sous contrôle des paramilitaires de soutien rapide et d'autres groupes armés, notamment au Darfour Nord.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Entretien hier mercredi à la Maison Blanche entre le président Joe Biden et le premier ministre japonais Fumio Kishida. Le chef de l'exécutif américain a annoncé à cette occasion le renforcement le plus important dans les relations de défense avec le Japon depuis la guerre froide, ainsi qu'une coopération renforcée en matière de défense aérienne, désormais étendue à l'Australie. Jin Inoue.
Le président des États-Unis a reçu en grande pompe à la Maison-Blanche le chef du gouvernement japonais, vantant l'alliance indestructible entre les deux pays. Ensemble, nos pays prennent des mesures importantes pour renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, a déclaré le président américain. Monsieur Biden a cependant tenu à souligner que le renforcement de l'alliance militaire avec le Japon était purement défensif. J'ai également le plaisir d'annoncer que pour la première fois, le Japon, les États-Unis et l'Australie vont créer un réseau de missiles aériens et une architecture de défense, a-t-il dit, ces deux pays étant clés dans sa stratégie de compétition avec la Chine. Le premier ministre japonais a lui appelé à la paix et à la stabilité sur fond de tension entre la Chine et Taïwan.
Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi que les États-Unis considéraient la demande de l'Australie d'abandonner les poursuites pour espionnage contre le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Le Parlement australien a adopté une motion en février avec le soutien du Premier ministre qui appelle à la fin de la saga judiciaire concernant Julian Assange. Ce ressortissant australien, arrêté il y a exactement 5 ans au Royaume-Uni, est détenu dans une prison londonienne et lutte contre son extradition vers les États-Unis. Les eurodéputés ont adopté hier mercredi une profonde réforme de la politique migratoire européenne qui durcit les contrôles des arrivées aux frontières du bloc et met en place un système de solidarité entre États membres. La réforme met en place un filtrage obligatoire des migrants arrivant aux frontières de l'Union européenne consistant à les enregistrer dans la base de données commune Eurodac. Une procédure à la frontière est prévue pour ceux qui sont statistiquement les moins susceptibles d'obtenir l'asile. Ils seront retenus dans des centres, le temps que leur dossier soit examiné de façon accélérée. Le ministre israélien de la Défense a affirmé mercredi que les mesures récemment annoncées pour augmenter les livraisons de nourriture dans la bande de Gaza assiégée via le port israélien d'Ashdod et un nouveau passage terrestre étaient en préparation. Il a également fixé l'objectif d'atteindre 500 camions de livraison par jour, un chiffre clé pour les Nations Unies. Au moment où le Hamas examine une proposition de trêve dans les combats, trois fils du chef du Hamas ont été tués hier mercredi dans une frappe israélienne à Gaza, ont annoncé le responsable palestinien et l'armée israélienne. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Mohamedou Oumfa.
Plus de 3,4 millions de personnes ont un besoin urgent d'une réponse humanitaire au Tchad, selon l'ONG Action contre la faim, une conséquence de l'afflux massif de réfugiés fuyant la guerre au Soudan et d'un sous-financement. L'ONG craint une dégradation de la situation avec l'arrivée de la saison des pluies et la période de soudure. Il est urgent que les bailleurs de fonds garantissent un financement durable de la réponse humanitaire, alerte l'ONG, qui estime le financement actuel à 4,5% seulement. Le prix de la vanille de Madagascar pourrait exploser. La récolte semble compromise après le passage du cyclone Gamane le 27 mars dernier, indique Jeune Afrique. Les inondations dues à ce phénomène auraient détruit 50% de la production, notamment dans la région de Sava, principal pôle de production de la précieuse gousse sur la Grande Île. La Banque nationale de développement de Guinée vient d'apporter un soutien financier aux petites et moyennes entreprises et industries d'un montant de plus de 20 milliards de francs guinéens, soit plus de 2 millions de dollars. Selon le président du conseil d'administration de la banque, ce prêt financier avec un taux d'intérêt de 8 à 10% est ouvert aux entreprises évoluant dans les secteurs économiques comme l'agro-industrie, l'agroalimentaire et l'industrie manufacturière.
Et nous passons directement à votre page des sports avec Nanit Talani. Bonjour Nanit.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Après 5 ans de suspension par la CAF pour fraude sur l'âge de ses joueurs, la Guinée des moins de 17 ans prépare son retour en octobre sur la scène continentale.
Dans un communiqué, la FIGIFOOT annonce l'organisation ce mois-ci d'un championnat des moins de 17 ans pour sélectionner des joueurs devant représenter la Guinée dans la catégorie. Cette compétition sera ouverte aux sections des moins de 17 ans des 14 clubs du championnat national de Ligue 1, précise le secrétaire général de la FIGIFOOT, Ibrahima Blasco-Barry. Aucun joueur de cette catégorie d'âge ne sera sélectionné en équipe nationale s'il n'est pas affilié à un club par une licence dûment enregistrée dans la plateforme FIFA Connect, prévient la FIGIFOOT pour éviter des cas de fraude.
Et en Coupe de Tanzanie, Nanit, Mashujaa FC surprend Simba SC et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de la Fédération.
Avec juste 10 joueurs tout au long de la seconde période, le Mashujaa FC a surpris le Simba SC, géant de la première ligue tanzanienne, au stade du lac Tanganyika à Kigoma. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité 1-1 à l'issue de la période de jeu, ce qui leur a permis de se départager au tir au but 6-5 en faveur de Mashujaa, qui se qualifie ainsi pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération.
Les Super Falcons du Nigeria et les Copper Queens de la Zambie ont obtenu leur ticket pour les JO de Paris 2024.
Les sélections féminines nigérianes et zambiennes de football représenteront l'Afrique au tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Super Falcons du Nigeria, 11 fois championnes d'Afrique, vont participer à leur 5e tournoi olympique de football féminin. C'est donc après un match nul et vierge 0-0 à Pretoria, en Afrique du Sud, mardi contre les Sud-Africaines des Banyama Banyama, championnes d'Afrique en titre. Les Copper Queens de la Zambie ont battu le Maroc. Au JO, elles se trouvent dans le groupe B avec les États-Unis, l'Australie et l'Allemagne. Les Super Falcons du Nigeria sont logés dans le groupe C avec l'Espagne, championne du monde en titre, le Japon.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakidzadeh, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Dans sa ferme près de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, Clark Longren se consacre à l'étude et à l'élevage d'animaux sauvages dont certains sont en voie de disparition. Résident au Burkina Faso depuis plusieurs décennies, ce Canadien offre aux touristes la possibilité d'observer ces animaux de près. Mais les combats et les troubles ont mis la ferme en péril. Reportage de notre correspondant Gilles Dasda, récit Claire Morigibourg.
C'est l'heure du repas pour les facochères de Clark Lundgren. Ce n'est qu'une des espèces que cet éleveur d'animaux sauvages d'origine canadienne élève sur ses 70 hectares à Wetbila, un village proche de la capitale, Ouagadougou. Une autre espèce est le potapig, un croisement entre un port de rivière rouge et un cochon. Le propriétaire de la ferme de Wetbila, Clark Lundgren.
Il y a un mâle au Bénin qui a monté la femelle de porc domestique. Et elle a fait des bébés métissés. Et quelqu'un de l'université de Cavalier a trouvé ça.
Mais tous les animaux ne peuvent pas se reproduire. Cette hyène femelle attend un partenaire, ce que Lundgren espère pouvoir lui amener bientôt. La ferme de Wetbila a été créée en 1998 dans le but de fournir des animaux reproducteurs aux fermes et de contribuer à l'éducation de la protection de l'environnement. Clark Lundgren espère également réintroduire des espèces qui ont disparu du Burkina Faso, comme l'autruche à cou rouge, également appelée autruche d'Afrique du Nord, qui est en danger critique d'extinction.
Les autruches, qui est la souche sauvage du Burkina, c'est l'autruche à cou rouge. L'espèce a disparu du Burkina il y a une cinquantaine d'années. Donc nous voulons faire cet élevage et on collabore avec d'autres personnes au Burkina aussi qui font ça.
La visite de la ferme dure environ 45 minutes. Les visiteurs peuvent admirer des pitons, des chacals, un aigle royal et une antilope Sing Sing de plus de 1,75 m de haut. Ils peuvent également apercevoir un bubal ressemblant à un cheval. Amidou Nana est l'un des gardiens de la ferme.
Je donne à manger. S'ils sont blessés ou s'ils ne sont pas, je les soigne aussi. Je suis venu pour travailler. Et quand je vis la manière que les gens ont fait, moi, ça me plaisait beaucoup.
Les combats entre les groupes islamistes armés et le gouvernement ont rendu la situation difficile pour la ferme. La nourriture coûte plus cher et les touristes sont moins nombreux. Cela a également affecté les animaux. De nouveau, Clark Lundgren.
Le problème, c'est que j'ai dû réduire la qualité de leur régime et la quantité donnée. Et pour certaines espèces, ça s'est mal passé. Je n'avais pas l'argent.
Pour son propriétaire, la fréquentation touristique et la vente de ces animaux les moins menacés ne suffisent pas à assurer la survie de la ferme de Wetbila. Pour couvrir ses dépenses, il a créé une organisation, le Center for the Development of Wildlife Production, afin de collecter des fonds pour maintenir sa ferme en activité et renvoyer certains de ses animaux à l'état sauvage.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La Côte d'Ivoire, par le biais du ministère du Tourisme et des Loisirs, cherche à rapprocher les communautés en mettant en avant les jeux et loisirs traditionnels des différentes régions du pays, valorisant ainsi une part importante de son patrimoine culturel. Un reportage de Alain Amonchi, relaté par Gini Niwa.
Ils sont venus des 31 régions que compte la Côte d'Ivoire avec des danses et des jeux traditionnels pour prendre part au deuxième festival national des jeux traditionnels. Vulgariser ce riche patrimoine culturel et en faire aussi un outil de promotion touristique, c'est l'objectif que décline ici Siandou Fofana, ministre ivoirien du tourisme.
Ces jeux ne sont pas non seulement mis en compétition, mais plutôt des occasions de tisser des liens, de fertiliser les rapports entre nos régions, de créer des conditions d'harmonie de nos peuples et du vivre ensemble, tout en renforçant l'amitié entre nos différents peuples et de transmettre des enseignements si précieux à la nouvelle génération.
Le principe de ces jeux dans la région Lodjiboua, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, est de déplacer le plus rapidement possible une pierre en chantant pour ne pas que la prochaine pierre n'écrase les doigts.
C'est un jeu au temps de deuxième guerre où nos parents africains étaient partis en Europe. Et à ce niveau, lorsque les parents voyaient que l'effectif des personnes qui étaient en Afrique, qui étaient sur les lieux, avait vraiment abaissé, ils perdaient leurs parents. Lorsque les gars chantaient et puis jouaient le jeu, ça leur a permis de rire, ça ramenait un peu la joie et oublier un peu la disparition de leurs parents.
Au fil des années, beaucoup de jeux traditionnels sont transformés et d'autres ont tout simplement disparu. Pour ce jeune fonctionnaire, ce n'est pas sans conséquence sur les jeunes générations qui se sont tournées vers des jeux venus d'ailleurs qui n'offrent pas les mêmes valeurs.
Autrefois, ce sont des jeux qui regroupaient les jeunes du village, les parents, et on se lançait des défis pour les jouer. Et ça apportait la joie, l'harmonie entre les jeunes, du village. Mais de nos jours, ça n'existe plus.
Selon Jessica Davis, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, les nouvelles technologies peuvent aider à préserver ce riche héritage culturel.
Comment est-ce qu'on peut transmettre les idées de ces jeux traditionnels pour encourager la communauté et pour les mettre avec les technologies nouvelles pour faire découvrir les jeux ivoiriens pour les jeunes d'aujourd'hui et de demain?
Depuis 2017, 270 jeux traditionnels ont été répertoriés à travers les 14 districts de la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes entendent vulgariser ces jeux dans toute l'étendue du territoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Alors que les affrontements meurtriers entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide se prolongent, l'industrie de l'information au Soudan a subi un coup dévastateur, les installations médiatiques étant détruites et de nombreux journalistes ayant perdu la vie. Davantage avec Blanche Sanou.
Depuis le début des affrontements, les médias, notamment le siège de la Société nationale de radio et de télévision que les deux belligérants cherchaient à contrôler, se sont retrouvés pris entre deux feux. De nombreuses installations ont été gravement endommagées, les institutions médiatiques ont été contraintes de fermer leurs portes ou de déménager dans d'autres régions. Walid Al-Nour, porte-parole du syndicat des journalistes soudanais, a exprimé ses inquiétudes face à la situation désastreuse à laquelle sont confrontés les journalistes qui ont perdu la vie au cours de leur couverture médiatique.
En raison du conflit, la majorité des institutions médiatiques du Soudan ont été contraintes de fermer leurs portes, laissant plus de 90% des professionnels de l'information au chômage. Ils ont enduré près d'un an sans salaire ni aucune source de revenus. Nous avons également tragiquement perdu 4 collègues journalistes qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions au milieu du conflit.
Depuis le début du conflit, Mustapha Sahid, un journaliste soudanais, a risqué sa vie pour tenir le monde extérieur informé de la situation sécuritaire sur le terrain et du sort de la population locale au milieu des combats en cours. Malheureusement, la maison du journaliste dans la ville d'Omdurman a été bombardée. Lui et sa famille ont dû fuir la grande région de la capitale et chercher refuge à Port-Soudan, dans l'est du pays, où la situation était relativement plus stable.
Les journalistes et le peuple soudanais sont confrontés aux mêmes défis existentiels et sont constamment exposés aux bombardements et à d'autres dangers causés par la guerre. Rendre compte de la situation sur le terrain nous oblige à nous rendre dans de nombreux endroits et avec les hostilités en cours, c'est sans aucun doute très dangereux. Cependant, nous faisons de notre mieux pour faire connaître au monde extérieur la réalité sur le terrain. Nous avons parlé des centres de réfugiés, du système de santé surchargé, etc.
Tout au long du conflit, les journalistes locaux ont été de plus en plus pris pour cible. Les enlèvements, les détentions et les agressions sont de plus en plus fréquents. Le photojournaliste Mohamed Ahmed Al-Asba, qui a fui le centre du Soudan vers la région orientale plus sûre, a été victime de plusieurs vols au cours de son pénible voyage.
Ils nous ont confisqué notre argent, nos téléphones et tous nos objets de valeur. Ils nous ont pratiquement tout pris.
Alors que le conflit s'étend désormais à 11 des 18 États du Soudan, le sort des journalistes soudanais n'est qu'un microcosme du désastre humanitaire plus large auquel est confronté le peuple soudanais. Maisons détruites, inquiétudes persistantes pour l'avenir, les souffrances du peuple soudanais ne montrent aucun signe de ralentissement près d'un an après le début du conflit.
Les électeurs américains soulignent que l'économie est l'une de leurs principales préoccupations cette année. Scott Stearns examine la façon dont les candidats Joe Biden et Donald Trump abordent une économie qui, selon le ministère américain du Travail, crée des emplois et augmente les salaires. Le récit est de Michel Claire-Joseph.
Theresa Labs, électrice du Wisconsin, s'inquiète de l'économie américaine et de la façon dont sa famille fera face à l'augmentation des coûts.
Il est difficile pour une famille de travailleurs comme la nôtre de faire ses courses sans dépenser 100 à 150 dollars chaque week-end. Le prix de l'essence ne cesse d'augmenter et je ne comprends pas pourquoi.
Theresa Labs dit qu'elle votera pour Joe Biden dans l'espoir qu'il continuera à travailler encore plus dur au cours des 4 prochaines années pour faciliter la vie des familles de travailleurs. Cette anxiété économique alimente également le soutien à Donald Trump. Faye Bowling, électrice de Géorgie, affirme que l'économie actuelle est la pire qu'elle ait jamais vue.
Je suis une grand-mère de 73 ans et je vous assure que je n'ai jamais vu de ma vie une économie aussi mauvaise qu'aujourd'hui. Et je suis tout à fait pour Donald Trump parce que nous devons reprendre la Chambre, le Sénat et la présidence pour que ce pays reste grand.
L'économie est l'un des principaux sujets de préoccupation des électeurs lors de cette élection présidentielle. Une majorité de personnes interrogées le mois dernier, dans le cadre d'un sondage Harvard Caps Harris, ont déclaré que l'inflation était le problème le plus important qui les touchait personnellement. Cette inquiétude survient alors que le ministère américain du Travail a annoncé des embauches supérieures aux prévisions au premier trimestre de l'année, les secteurs de la santé, de l'administration et de la construction ayant créé le plus d'emplois, le taux de chômage étant inférieur à 4% et les salaires continuant d'augmenter. Trump affirme que l'économie américaine est en ruine et qu'il est l'homme qu'il faut pour y remédier.
Les gens veulent du changement. Les riches le veulent. Les pauvres le veulent. Tout le monde veut du changement. Le pays va vraiment mal. Nous sommes la risée du monde entier. Nous allons obtenir ce changement très rapidement.
Joe Biden a déclaré lors d'un rassemblement dans le Nevada qu'il était en train de redresser une économie qui a été touchée par le coronavirus et par les réductions d'impôts accordées par Trump aux Américains les plus riches.
Les choses bougent. Le chômage a baissé de façon spectaculaire. Plus de Nevadains travaillent aujourd'hui que jamais dans l'histoire du Nevada et des milliers de villes à travers toute l'Amérique assistent à ce grand retour.
Selon Biden, l'économie s'améliorera également grâce à son plan d'annulation de certains prêts étudiants.
Les amis, je ne cesserai jamais d'alléger la dette étudiante des Américains laborieux. Et c'est uniquement dans l'intérêt de l'Amérique que nous le faisons. Et encore une fois, c'est pour le bien de notre économie. Elle est de plus en plus forte.
Le sondage de Harvard montre les divisions politiques du pays sur l'économie, avec près des 2/3 des démocrates qui disent que l'économie est sur la bonne voie. Mais seulement 12% des républicains reflètent cet optimisme.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Eric Manilakiza à ce micro, Michel Claire-Joseph à la réalisation. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes 24 heures sur 24.